Très bon réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des négociations marathon sur le Brexit alors que Bruxelles et Londres ont repris les discussions. Des échanges âpres depuis hier sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Dans ce journal, nous prendrons la température de ces échanges en direct de Bruxelles avec notre correspondante sur place, Angélique Bouin.
Et puis Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi alors qu'Amnesty International évoque une frénésie d'exécutions en cours dans le pays.
Plusieurs ONG de défense des droits humains appellent le président de la République française a condamné cette situation. Parmi les détenus mis à mort, beaucoup l'étaient dans des affaires politiques, nous dira notre correspondant au Caire, Martin Roux.
Le collectif Stop Loi de Sécurité Globale appelle à une nouvelle journée d'action dans la rue.
Après une mobilisation en baisse, samedi, quelles sont les perspectives de ce mouvement? Précision à suivre avec Laura Dulieu. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, dans une dizaine de minutes, les sorties de films sur plateforme préfigurent-elles la fin du cinéma en salle? Je poserai la question à Serge Toubiana. Il est président d'Unifrance, l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'étranger.
Ce sont des heures présentées comme décisives pour trouver un accord post-Brexit. Après des mois d'impasse, alors que les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni craignent de lourdes conséquences économiques en cas d'échec, des pourparlers entamés hier se sont tenus jusque très tard dans la nuit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tireront ce soir le bilan de ces deux jours supplémentaires de discussions. Nous partons tout de suite à Bruxelles, rejoindre en direct notre correspondante Angélique Bouin, bonjour.
Bonjour.
Alors des négociations dans un certain climat de dramatisation, Angélique.
Ah oui, il y a la nervosité ici, hein. La commission dans les ambassades autour de ce nouveau marathon de négociations dont rien ne filtre à ce stade. Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Europe, doit briefer les 27 ambassadeurs à 7h30 ce matin, puis reprendre les discussions avec comme objectif, vous l'avez dit, d'aboutir ce soir. Signe de la tension, comme tout se négocie dans le plus grand secret, on assiste, hein, comme souvent autour de ce Brexit, à un festival de rumeurs. Hier soir, certains annonçaient une percée sur la pêche, ce qui a ensuite été démenti. Et puis, on dramatise aussi autour de ces 48 heures présentées comme les toutes dernières pour obtenir un accord ou bien jeter l'éponge, alors que juridiquement, on pourrait tout à fait discuter jusqu'à fin décembre et renvoyer la ratification du texte par le Parlement à début 2021, explique une source européenne. Alors, où en était-on hier? Eh bien, on a avancé sur à peu près tout, sauf sur l'essentiel, dit-on côté européen. Plus de 600 pages règlent le problème des transports, de l'énergie, de la coopération policière, mais sur la pêche, sujet ultra sensible politiquement, mais c'est pas si compliqué techniquement. Il n'y avait pas encore d'avancée suffisante ce week-end. Et puis cela bloque toujours très fort sur les conditions de concurrence équitable. Les 27 ne laisseront pas entrer les produits britanniques sur leur marché de 450 millions de consommateurs, sans droits de douane, ni quota, sans obtenir des garanties. Ils veulent que les Britanniques s'engagent non seulement à respecter nos normes de production, mais qu'ils s'adaptent aussi à leur évolution dans le temps. Car n'oublions pas qu'avec le pacte vert, ces normes ont vocation à se durcir. Mais Londres a justement claqué la porte de l'Union pour retrouver sur ce sujet, entre autres, sa souveraineté. On tourne en rond là-dessus depuis des mois et cela continue. Côté européen, de plus en plus de voix disent préférer ouvertement une absence d'accord à un manque de garantie sur ce sujet qui se paierait économiquement trop cher dans les années à venir.
Merci beaucoup Angélique Bouin, en direct ce matin de Bruxelles pour France Culture. La période de transition se termine donc officiellement au 31 décembre. Ensuite, intervient la sortie du marché unique et de l'union douanière. Le Royaume-Uni, qui est le pays le plus durement touché en Europe par la pandémie, avec plus de 61 000 morts, commencera à partir de demain sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Un moment salué hier comme historique par le ministre de la Santé britannique. Le Royaume-Uni est le premier pays dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination. Alors que les États-Unis viennent de traverser l'une des pires semaines de l'épidémie, le pays reste encore le plus touché au monde par le Covid, avec presque 15 millions de cas et près de 280 000 morts. Décembre, janvier et février seront très durs, les plus difficiles de l'histoire des États-Unis en matière de santé publique. Ce sont les mots du directeur de l'Agence américaine de santé publique, Robert Redfield. La nouvelle vague n'épargne presque aucun État. Plus de 100 000 personnes sont hospitalisées actuellement et les services de soins sont en en tension presque partout. Rhode Island a même ouvert 2 hôpitaux de campagne il y a une semaine. L'un d'eux est situé à Providence, ville la plus peuplée de cet État. Sébastien Paour a recueilli sur place la parole des soignants.
600 lits attendent les malades du Covid pour soulager les structures de la ville. C'est le docteur Selim Sonner qui dirige l'équipe médicale de l'hôpital de campagne, prêt depuis la première vague en avril, mais ouvert depuis lundi dernier, parce que la courbe remonte dangereusement.
C'est pire qu'au printemps. Nous avons déjà battu les records que nous avions établis, à la fois pour celles qui sont testées positives et pour les personnes hospitalisées.
400 personnes hospitalisées aujourd'hui dans le Rhode Island. Le record de mai est dépassé. La directrice administrative de l'hôpital, Cathy Duquette, espère que les mesures décidées par la gouverneure démocrate produiront leur effet.
Notre gouverneur a donné l'ordre, essentiellement depuis lundi, de faire une pause. Ça veut dire que les gens doivent rester chez eux, travailler à domicile. On espère que les citoyens du Rhode Island se conformeront à ces ordres.
Lui vient de sortir sur ses 2 jambes du centre de convention. Sam, 75 ans, 3 jours aux urgences, 2 ici. Il se sent mieux, mais préfère nous parler au téléphone de chez lui. Il est en colère contre ceux qui refusent de prendre l'épidémie au sérieux.
Cette maladie est la première cause de mortalité. Il n'y aura bientôt plus que des gens malades au Rhode Island.
C'est l'Amérique, rappelle le docteur Sonner. Chacun veut faire ce qu'il veut et il espère que le changement de président redonnera du crédit aux soignants.
Je ne peux pas imaginer quelqu'un de pire que Trump.
Et il donne rendez-vous aux Français.
Let's drink some wine after this.
Trinquer pour fêter la fin de la pandémie, comme lors de son dernier voyage, c'était à Paris, il y a plus d'un an.
Sébastien Paour, envoyé spécial de France Culture à Rhode Island. Donald Trump a annoncé hier que son avocat personnel, Rudy Giuliani, avait été testé positif au Covid-19. Ce dernier sillonne depuis un mois les États-Unis pour contester les résultats de la présidentielle américaine lors de réunions où il ne portait pas de masque.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour une visite officielle de 2 jours.
Oui, et plusieurs ONG de défense des droits humains appellent le président de la République a condamné les atteintes aux droits de l'homme en Égypte. Signe de gravité de la répression en cours, Amnesty International alerté la semaine dernière sur une frénésie d'exécution, selon les mots de l'ONG. Parmi les détenus mis à mort, nombre d'entre eux étaient inculpés dans des affaires politiques. Au Caire, les précisions de Martin Roux.
Au cours des 2 derniers mois uniquement, près de 60 détenus ont été mis à mort. Cela représente 2 fois le nombre d'exécutions sur l'ensemble de l'année 2019. Un record glaçant, mais très probablement sous-estimé, prévient l'organisation Amnesty International. Près du tiers de ces détenus exécutés étaient inculpés dans des affaires politiques. L'ONG dénonce des procès injustes. Elle pointe notamment des aveux extorqués sous la torture. Mohamed Lotfi est à la tête d'un réseau d'avocats défendus. Défenseur des droits humains, il est chaque jour confronté à une justice instrumentalisée.
Malheureusement, la justice égyptienne, en ce moment, est en collusion avec l'exécutif. Elle devient un outil de plus dans la main de l'exécutif pour donner une couleur légale à la répression.
Les condamnations à la peine capitale sont dans la majorité des cas prononcées par des tribunaux militaires. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Al-Sissi en 2014, plus de 15 000 civils y ont été jugés. L'Égypte compte aujourd'hui parmi les 10 pays qui exécutent le plus de prisonniers.
Martin Rouauquer pour France Culture. Elle enquêtait sur la corruption, les narcotrafiquants et les représentants politiques au Mexique. La journaliste d'investigation Regina Martinez a été assassinée en 2012. Elle figure parmi les 119 journalistes tués au Mexique en 20 ans. Son histoire est au cœur du projet Cartel. C'est la nouvelle enquête internationale menée par le consortium Forbidden Stories et 25 médias partenaires, dont la cellule d'investigation de Radio France. Un dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. Ce sera aussi l'objet de la revue de presse internationale de Thomas Larabi à 7h35.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Le collectif Stop Loi de Sécurité Globale appelle à une nouvelle journée d'action dans la rue.
Alors que la mobilisation était en baisse ce week-end avec 52 000 manifestants recensés dans toute la France, 5 000 à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur samedi, malgré la présence de cortèges syndicaux pour cette marche rebaptisée Marche des Libertés et des Justices. Alors quelles sont les perspectives du mouvement? On écoute Laura Dulieu.
jusqu'au retrait définitif des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi et du schéma national de maintien de l'ordre. C'est ce que le collectif Stop Loi Sécurité Globale réaffirme dans un communiqué. Le collectif qui appelle donc à une nouvelle journée de manifestation dès samedi prochain. Alors la question, c'est combien de temps les organisateurs vont-ils réussir à mobiliser avec déjà un nombre de manifestants en baisse par rapport à la semaine d'avant. Que ce soit dans la rue ou ailleurs, le premier secrétaire général du syndicat national des journalistes, Emmanuel Poupart, promettait lors de la marche de ce week-end de lutter jusqu'au bout.
La proposition de loi va arriver en navette au Sénat. Il y a un parcours qui va être un peu long, mais nous, en tout cas, on est déterminés. Nous sommes déterminés, donc nous allons continuer. Alors, est-ce qu'on va continuer dans la rue ? Est-ce qu'on va continuer par différentes actions ? Est-ce qu'on va continuer par des tribunes ? Est-ce qu'on va continuer par des textes ? Certainement un peu de tout ça. Bon, mais en tout cas, on va maintenir la pression pour essayer d'arriver à nos fins.
Et les organisateurs regarderont aussi de près le projet de loi contre les séparatismes présenté mercredi en Conseil des ministres. L'article 25 de ce texte reprend dans sa rédaction actuelle l'esprit de l'article 24 de la loi Sécurité globale. Mais finalement, le gouvernement recule. Ce ne sera pas la proposition du gouvernement, affirmait hier Gérald Darmanin.
Parmi les nombreuses conséquences de la crise du Covid en France, les boîtes de nuit et leurs DJ qui n'ont aucune visibilité sur la réouverture prochaine des discothèques. À 7h24, le reportage de la rédaction sera consacré à ces DJ en souffrance, privés de leur métier depuis 9 mois, alors qu'Emmanuel Macron a précisé vendredi qu'une réouverture rapide, ce serait de la folie, selon ses mots, alors que Roselyne Bachelot considère que ces établissements ne dépendent pas de son ministère de la Culture, mais notamment du ministère de l'Intérieur. Un manque cruel de considération pour les DJ, selon Tequila Tex et les DJ.
Le monde de la nuit ne dépend pas du ministère de la Culture, mais du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est quoi ? C'est des limonadiers, c'est des endroits où la musique est secondaire, on va juste pour consommer de l'alcool, et en gros, voilà, c'est des bars, quoi. C'est, ça n'a rien à voir avec la culture, quoi. Alors qu'il peut y avoir de la poésie dans un DJ set, en fait. Il peut y avoir de l'art dans une sélection de morceaux. Le fait de les mettre dans tel ordre plutôt que dans tel autre ordre, le fait de choisir ces morceaux-là, de faire découvrir de la musique qui a été faite par des vrais musiciens. Mais cette musique-là, on l'a fait découvrir, on l'amplifie et on l'a fait connaître à des gens qui l'auraient jamais connu. Et de les jouer d'une certaine manière qui va provoquer une euphorie sur le dance floor. Ça n'a pas de prix. Ça ne peut être remplacé ni par un jukebox, ni par une playlist Spotify. Et ça, c'est un vrai point de vue artistique et un vrai truc à défendre. Ça, le gouvernement français n'a pas l'air de vouloir le comprendre.
Un témoignage au micro France Culture d'Anne Lamotte. Un mot du temps aujourd'hui, un temps gris et froid sur une large partie du pays, de la pluie sur le quart sud-ouest, la Bourgogne et la Franche-Comté notamment, un temps sec mais nappé de brume sur l'Île-de-France et un soleil voilé ce matin au bord de la Méditerranée, de la neige au-dessus de 300 mètres sur la frontière l'Alsace et le Nord. Les températures sont comprises ce matin entre -4 et 3 degrés sur la moitié nord, 1 à 6 degrés sur la moitié sud. Guillaume Hernand.
Merci Sophie Delpont. Dans quelques instants, on va effectivement retrouver ce reportage, le reportage de la rédaction sur les DJ oubliés du Covid, signé Anne Lamotte. Mais immédiatement, la question du jour, les sorties de films sur plateforme préfigurent-elles la fin du cinéma en salle, avec Serge Toubiana qui dirige Unifrance.